France Culture.
Les nuits de France Culture. Journaliste, photographe, morte à 26 ans au cours de la bataille de Brunete pendant la guerre d'Espagne, elle s'appelait Gerda Taro. Amoureuse de André Erne Friedman, qui peinait à vivre de ses photos, ce fut elle qui lui inventa le double, le pseudonyme sous lequel il devint célèbre, Robert Capa. Toutes les femmes qu'il a aimées après sa mort ressemblaient à Gerda Taro. C'est ce que l'on entendra dans l'émission qui va suivre, la seconde partie du Profil perdu qu'en 1989, Dorothée Noblet consacrait à Robert Capa. Une émission qui ne disait rien de la dévastation que fut pour Capa la mort de Gerda Taro, mais qui nous transportait 10 ans après sa disparition, quand, avec Henri Cartier-Bresson, George Roger, William Van Divert et Chim, c'est-à-dire David Seymour, Robert Capa fondait l'agence Magnum. Cette seconde partie, en exposant les motifs et les circonstances qui avaient conduit à la naissance de cette agence et la manière dont fonctionnait Magnum dans ses premières années, proposait un portrait de Robert Capa en photographe et patron d'agence, dont tous ceux que nous allons entendre évoquaient le charisme, le pouvoir de séduction, la passion pour son métier, l'amour des gens, des femmes et de la vie. Avec les témoignages de Henri Cartier-Bresson, de Cornel Capa, frère de Robert, de leur cousine Suzy Marquis, des photographes Eric Lessing, Marc Riboud et Pierre Gassman, de Jimmy Fox, alors directeur du bureau Magnum de Paris, de John J. Morris, qui avait rejoint Magnum dès 47, et du journaliste Michel Guérin. Profil perdu, Robert Capa, seconde partie, diffusée le 26 octobre 1989 sur France Culture.
Profil perdu, Robert Capa, deuxième partie.
Chim, Capa et moi, nous étions... Je ne connaissais pas d'autres photographes, pratiquement. Et on a travaillé ensemble. On a travaillé pour ce soir où Aragon nous fichait une paix royale. On était très tranquille, enfin, on faisait un peu de tout. Les chiens écrasés, de tout. Et il y a eu la guerre d'Espagne. Chim et Capa ont travaillé pendant la guerre d'Espagne en photographe. Et moi, j'ai fait un film sur les hôpitaux espagnols. Nous nous voyons tout le temps, mais on ne se considérait pas comme des artistes. Ça n'avait aucun rapport avec la photographie maintenant. On était des artisans avec une curiosité pour ce qui se passait dans le monde. On faisait ça du mieux possible. Mais les conceptions esthétiques de maintenant, ça aurait été d'une grossièreté, d'une vulgarité que de parler de ces choses-là. Il fallait être présent. Il fallait deux jambes, un œil, un doigt et pas trop réfléchir. Il fallait être sensible, parce que maintenant, c'est l'intelligence, une intelligence qui mène à quoi? Enfin, je ne porte aucun jugement sur la photographie actuelle. Ça n'a aucun rapport. Notre monde, quand nous faisions des photos, il n'y avait pas la télévision. Même au début de Magnum, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de charter. Il y avait une curiosité, et c'est pour ça qu'on a fondé Magnum en 47. Il y avait une curiosité dans le monde pour ce qui se passait, que le monde y avait été coupé. Alors il y avait Chim, Capa et George Roger, qui est le seul survivant des fondateurs avec moi.
Le 21 juillet 1938, Capa s'embarque à bord de l'Aramis. Il part en Chine retrouver Joris Stevens. Les aventures du reporter hongrois s'enchaînent. depuis la Chine, Capa écrit « Je suis en train d'organiser un groupe de jeunes photographes et je ferai la même chose en Europe. Je ne sais pas ce que deviennent Cartier-Bresson et Chim. Il y aura aussi un moyen de faire quelque chose avec eux. J'aimerais que nous formions une sorte d'organisation qui ne serait en aucun cas une agence. L'atelier de Paris est mon quartier général personnel. Actuellement, tout ce que je peux faire, c'est enseigner à quelques jeunes gens à faire du bon travail. »
Là, j'ai le carton uniquement consacré au débarquement en Normandie. Et il y en a également deux autres qui parlent de la libération de Normandie. Et puis alors, ça continue jusqu'en Italie, en Allemagne, etc. Avec cette photo qu'on va trouver sans doute au moins 40 exemplaires si on feuillette tout le carton, qui est une des plus connues. C'est le premier film que Robert Capa a exposé au moment du débarquement des troupes américaines sur la plage de Oama Beach. Et là, on voit un soldat qui est dans l'eau et qui essaie de ramper jusqu'à la plage sous le tir des Allemands, évidemment. Et cette photo, elle est un petit peu mythique parce que le jeune laborantin qui a développé le film était tellement ému qu'il n'a pas vraiment bien calculé la température de l'eau et des bains de développement. Et donc ça donne un effet bougé comme ça qui accentue encore beaucoup plus le pathétique de la chose.
Depuis Londres, John Morris organisait toutes les opérations de reportage.
And in 1940, Robert Capa came to...
En 1940, Capa est venu à New York et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. C'est un moment où il devait être en Amérique. La France était déjà aux mains des Allemands et les Alliés n'avaient pas encore débarqué. Donc il a tout d'abord travaillé en Amérique pour un moment. Il est allé dans le Midwest. Il a travaillé à Chicago. Travaillait pour Life Magazine.
Very mundane assignments.
Il faisait des reportages du quotidien.
That I went skating with him at the Rockefeller.
Je me rappelle être allé faire du patin à glace avec lui au Rockefeller Center.
Very amusing because he could not skate very well.
Il était très drôle parce qu'il ne savait pas très bien patiner.
Hanging on to the prettiest girl he could
find. Et il passait son temps à draguer les jolies femmes sur les bords de la piste.
First, I went to Hollywood for a year.
J'ai d'abord passé un an à Hollywood.
I was covering the movies and.
J'étais à Los Angeles.
There, actually, Capa came through.
Capa était là aussi.
I think it's when he first met Ingrid Bergman.
Je crois que c'était le moment de sa première rencontre avec Ingrid Bergman.
At any rate, Capa came visiting once when I was living in Los Angeles, and but.
Mais j'ai vraiment commencé à travailler avec lui à Londres pendant la guerre.
This is Robert Capa here.
Ici, c'est Robert Capa. C'est George Rogers, l'un des fondateurs de Magnum. Bob Landry, Frank Shushel, Ralph Morrison, David Duncan et moi au milieu. J'étais comme un capitaine d'équipe.
And this was this is a
et
picture
ça,
of Capa too.
C'est une image de Capa aussi.
Capa's girlfriend Pinky.
Une photo de la petite amie de Capa, Pinky.
Elle
est en train de soulever la veste de pyjama d'Ernest Hemingway.
Because in January 43.
En janvier 1943,
from Italy,
Capa est revenu à Londres d'Italie. La guerre en Italie, ça a été terrible.
He was glad to get out and so he came to London. We had a great party to celebrate.
Et on a fait une grande fête pour célébrer ça à Londres.
The car that Ernest Hemingway was in.
La voiture d'Ernest Hemingway s'est heurtée dans un abri.
And Hemingway ended up in the hospital. And this picture of
et
Pinky,
cette image de Pinky a été prise quand Capa est allé rendre visite à Hemingway à l'hôpital.
But Capa was very lighthearted. Here you
Capa
see him.
Était très bien.
He's posing with his head on the postage scale.
Là, vous pouvez voir, il avait mis la tête sur la balance de la poste.
We tried not to be very serious.
Nous essayions tous de pas être trop sérieux.
There were very bad times.
Nous allions passer de très mauvais moments et
nobody knew who
on ne savait pas qui survivrait.
Fire!
Pierre Gassman.
En 39, il est parti par Marseille. Et il a pu partir encore chez Erwin Blumfeld, il y en a d'autres, en 39-40, il y en a encore. Schimm était déjà parti en 38. Henri était comme prisonnier de guerre. Gisèle Freund était au Mexique. Alors, oui, on était un peu distribués. Et on s'est retrouvés d'une façon très drôle après la libération de Toulouse, comme les républicains espagnols jouaient un très grand rôle dans la résistance en France. Il y avait un congrès des républicains espagnols en septembre 1944 à Toulouse. Moi, j'étais entre-temps sorti du maquis parce que j'étais parmi ceux qui ont libéré Toulouse avant Paris. J'étais retourné dans l'armée, j'étais donc là en uniforme et à photographier les anciennes républicains espagnols, généraux, Passionaria et compagnie. Ils étaient tous là. Et quelqu'un m'est tapé sur l'épaule, j'étais devant. Et je me retourne pour passer. Et je me trouve devant Capa, un magnifique uniforme des capitaines de l'armée américaine. Et puis un garçon en veston de cuir râpé, avec son violet qui a autour du cou, c'était Henri. Alors, comme les généraux l'ont reconnu Capa, ils ont arrêté les discours pour l'acclamer, et ils voyaient qu'il tombait dans les bras de ce jeune photographe de l'armée française, ils ne comprenaient rien. Et puis après, il allait à la tribune où il était fêté par tout le monde. Voilà comment on s'est retrouvé en septembre 1944. Et dans la nuit qui suivait, que j'ai passé avec lui à l'hôtel, il me parlait, tu sais, quand tout ça, ça va être fini, on va faire l'agence. L'idée de faire Magnum, c'est au fond née en 1934 ou 1935, avec un des premiers reportages de Robert Capa ou de Robert Friedman. Il avait fait un reportage à la Bourse de Paris. Et puis ça ne se vendait pas. Et puis alors Goodman l'a donné à des agences, et puis ça, d'agent en agent. Tout d'un coup, il apprend que ses photos étaient publiées. Merveilleux. Mais elles étaient publiées dans les Illustrierte Beobachter, c'est-à-dire le journal illustré du parti nazi à Munich, avec un titre « Les Juifs de Paris ont décidé, le franc doit tomber ». Il était fou de rage que ces photos qu'il avait faites, parce qu'il aimait le mouvement de la bourse, étaient utilisées par les nazis pour faire la propagande antisémite. Et c'est là où est née l'idée de Magnum de faire une agence qui appartient aux photographes, où les photographes d'un bout à l'autre ont le contrôle de ce qu'on fait avec leurs photos et quel texte on met sur leurs photos. C'est cette expérience-là qui nous est restée dans la tête et qui a été finalement réalisée après la guerre. En réalité, tout ça s'était aménagé avec les relations que Capa et Schimm avaient déjà avec les Nations Unies.
Alors là, nous sommes donc dans le petit KGB qui servait de laboratoire.
Oui, il y a 2,50 m sur 1 mètre sur 2 mètres.
Henri Cartier-Bresson.
Avec Schimm et Capa, alors on développait les photos là.
L'agrandisseur était où ?
Là dans le fond, et puis une cuvette là, puis il fallait sortir et aller dans la cuisine pour laver les tirages. Alors, quand on voit ce qu'ont les copains maintenant, il y a les mêmes rapports qu'entre les avions de chasse de ma jeunesse, qui faisaient du 200 à l'heure, et ceux de maintenant qui font du 2000. Schimm était pessimiste, et Capa optimiste, et moi un paquet de nerfs. Et on s'entendait extrêmement bien. Schimm avait une tête de professeur nimbus, de joueur d'échecs. Il était toujours assez pessimiste, réfléchi, et nous étions très très liés, lui et moi. Nous lisions les mêmes livres, enfin, Tandis que Capa était Sylvie Fargeon, la séduction, le charmeur. Et nous étions des aventuriers, mais aventuriers avec une éthique. Ce qui nous importait, c'était d'être vivants, d'être présents. Alors, quand on s'est retrouvés après la guerre, on aurait voulu que Doineau nous vienne à Magnum. Mais Doineau dit « Non, sorti de Montrouge, je suis perdu. » N'est-ce pas? Mais on a commencé comme ça, et avec George Roger, et chacun est parti de son côté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avant la fondation de Magnum, on s'est connus en Amérique, j'avais une exposition posthume, parce que les Américains avaient cru que j'avais été tué pendant la guerre, et ils m'avaient fait une exposition au Musée d'Art Moderne, et Chim, Capa et moi, on s'est retrouvés, et avec Chim, on s'est demandé comment est-ce qu'on arrivera à faire vivre Capa. Tout de même, c'est un petit métier, la photographie, et Capa, il mène grand train. Il mène grand train, il donne des banquets, il vit dans des grands hôtels. Nous sommes je sais pas, on n'aime pas ce genre de vie-là. Comment fera-t-on pour le faire vivre? On ne s'est pas aperçu que c'est lui qui nous faisait vivre, parce que dans ses dîners ou à 3 heures du matin dans un bar, il rencontrait quelqu'un, il dit « Tiens, il y a un reportage pour toi ». Et puis alors il jouait au gin rummy avec le propriétaire d'un journal, et c'est comme ça qu'il décrochait du travail pour les autres. Non, c'était un homme d'affaires extraordinaire. Et au début, l'argent des uns était l'argent des autres. J'ai passé 3 ans en Orient, je suis revenu en 50, et sur les livres, j'avais une très belle somme d'argent. J'ai dit à Capa, écoute, je voudrais m'acheter une moto maintenant. Ah, mais il dit, non, il n'y a pas question, parce que j'ai pris ton argent, on est pratiquement en faillite. J'ai rouspété, il me disait toujours ça, ne gigote pas, je suis un paquet de nerfs, ne gigote pas, popote, prends ton Leica. Et il m'a donné 6 ou 7 idées. Il y en avait 5 ou 6 qui ne valaient rien. Une excellente et la dernière était formidable. Puis je suis parti, puis voilà. Les questions d'argent ne jouaient pas comme ça. Et lui avait toujours table ouverte, une générosité. Et ensuite, quand on a fondé Magnum en 47, Maria Eisner a été une des fondatrices. C'est la seule qui fait partie de Magnum sans être photographe. Capa n'était pas un tendre. Elle n'était pas un tendre. Maria faisait marcher le bureau de Paris, Rita Van Divert le bureau de New York. Son mari n'avait pas pu rester avec nous parce qu'il travaillait pour Fortune. Et nous, le principe était toujours de garder nos négatifs. C'est comme ça que nous avons des archives. Et Maria ne voulait pas rester à Paris, elle voulait épouser un médecin à New York. Et Capa l'a fichu à la porte carrément. Ah oui! Non, c'était pas un tendre. Enfin, il avait 1000 qualités de gentillesse, de bonté, mais c'est pas un tendre. Les affaires, ça roulait. Et je l'ai vu donner des coups de pied dans le derrière à certains photographes qui l'agaçaient. Ah oui, et tout ça avec une gentillesse, une élégance. Personne ne lui en voulait. Mais j'étais en Chine, les 6 derniers mois du Kuomintang, les 6 premiers de la Chine populaire. Et je ne pouvais pas sortir. Et je suis sorti au bout d'un an sur un bateau qui évacuait tous les Occidentaux. Et sur ce bateau, une fille vient à moi, ravissante fille, et qui me dit « I'm one of Capa's girls » en se présentant. Et il y en avait beaucoup, et toutes très belles.
Il avait envie de bien vivre, donc être aux courses avec des très jolies femmes, s'amuser avec des très jolies femmes, passer une bonne soirée. Les souvenirs de beaucoup de gens, de Capa, c'était toujours lié avec des repas splendides. Il y avait des moments où on n'avait pas 10 francs. Les repas étaient d'autant plus splendides.
Il n'a jamais eu l'intention de se marier, jamais eu envie de se fixer à un moment donné.
On ne peut pas le savoir. En réalité, tout ce que je peux savoir, l'avoir remarqué, que toutes les femmes qu'il a aimées plus tard ressemblaient à Gerda.
Suzy Marquis.
Les seules fois où il m'a vraiment parlé de lui, c'est quand il s'est trouvé dans des difficultés avec son passeport. Et ensuite, quand il a eu un problème de disque déplacé à la colonne vertébrale, il souffrait énormément. Et par la suite, il a été vraiment extrêmement gêné, à la fois dans son comportement quotidien et dans son, dans le développement de sa vie professionnelle, parce qu'il ne pouvait pas accepter de travail difficile. Hein, il ne pouvait plus porter ses sacs, il ne pouvait plus... Enfin bon, c'était extrêmement pénible pour lui. Et quand il est mort, j'ai retrouvé chez lui un corset en fer que je lui avais vu mettre plusieurs fois, et c'était extrêmement bouleversant.
Cornel Capa.
He was a very friendly, strong person.
C'était quelqu'un de très chaleureux, doué d'un grand charisme.
And personal approach, as Richard Whalen, the biographer, wrote eventually about him, his real talent was
son réel talent,
liked people and he
c'est qu'il aimait
made
les gens
people know that he liked
et qu'il faisait savoir aux gens qu'il les aimait.
And that was a key to his photography.
C'était la clé de sa photographie, de sa vie et de son succès. Sa technique était très marginale. Il travaillait avec un seul appareil et un seul objectif. Et si votre photo n'est pas bonne, c'est que vous êtes trop loin.
It's a very simple way of doing it. Also, he very much liked to be on the level.
Aussi, il aimait beaucoup se mettre au niveau des gens qu'il photographiait. Si c'était un enfant, il pliait un genou pour être au même niveau que la personne. Il ne regardait jamais vers le bas ou vers le haut. C'était toujours au même niveau.
In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you in this world.
Marc Ribou.
Là, cette femme rasée avec son bébé dans les bras, et que tous les habitants d'une petite ville méprisent et ils crachent sur elle. Et c'est cette épuration après la guerre. Et cette photo du Français avec son béret offrant dans une carafe du vin blanc aux GI américains, c'est quelque chose. Et vraiment, si vous voulez découvrir Capa, après la guerre, ça fait partie, c'est toute cette génération après la guerre. Nous avons découvert les cigarettes blondes américaines, nous avons découvert la musique, le jazz américain, le cinéma américain, la littérature américaine, et tout ça est arrivé comme une énorme bouffée culturelle, intellectuelle, une bouffée d'air libre qui a donné tout d'un coup une impression d'une nouvelle vie, d'une rage de vivre, découvrir les Noirs américains, découvrir ce rythme de la musique, nous vivions, nous avons vécu 4 ou 5 ans sous l'occupation, une vie passionnante, mais fermée, cloîtrée. Et les images de Capa illustrent, expriment cette période, cette ouverture extraordinaire. Ces photographies sont des photographies de détails, de petits aspects d'une femme vietnamienne qui replante le riz. Ce n'est pas du grand spectaculaire, ce n'est pas la guerre, les images de guerre de David Duncan avec des fumées, des explosions extraordinaires. Mais il y a l'humain et il y a cet amour de la vie, cet amour de l'humour. Du geste, du petit geste, du rire, qui, dans les moments les plus dramatiques, on retrouve ce rapport d'une statue drôle à Palerme avec le GI un peu ridicule. Et tout ça ressort de ces photographies et de ce qu'il écrit.
I'll live to love, I'll love to live with you. Beside me, this road so new, I'll muddle. guide me in this world where many, many play at love, but hardly any stay in love. I'm glad there is you.
Je me suis tout de suite aperçu que Magnum, et autour de Magnum, pour y accéder, pour y entrer, c'était Kappa. Le sésame, c'était Kappa. Henri a dit, bah, on pouvait peut-être un peu aider, mais c'est Kappa qui tenait la clé. Et Henri Cartier-Bresson me donnait l'impression d'être timide devant Kappa. Cartier-Bresson me dit, écoute, surtout ne suis pas les conseils de Chim, David Seymour, qui est l'autre fondateur de Magnum. David Seymour, il me disait, surtout ne suis pas les conseils de Kappa. Et Kappa me disait, surtout ne suis pas les conseils d'Henri. Alors, j'étais très perplexe et je me suis adressé au sage, George Roger, qui était le quatrième des fondateurs de Magnum, qui faisait figure de sage. Et il m'a dit, écoute, n'écoute personne, mais écoute-moi bien. Magnum est une famille. Alors je vous assure que je l'ai tout de suite compris que c'était une famille. Que c'était une famille faite de personnalités, de fortes personnalités différentes, et que il fallait que toutes les personnalités vivent ensemble, et quelquefois, c'était pas toujours très huilé, c'était pas, baignait pas dans l'huile. Kappa avait, toute évidence, une très forte personnalité. Alors, je l'ai rencontré à Paris. Il m'a dit, eh ben, fais des photos. Oui, bien sûr. C'était très simple, très, très carré. Pas des grandes questions, pas de grands discours. Et il n'avait jamais beaucoup de temps. Je l'ai rarement vu assis. Toujours l'impression qu'il était debout, debout à un bar, debout pour partir, debout pour prendre un taxi, debout pour discuter le coup. Je l'ai vu debout dictant des lettres à Margot, cette secrétaire américaine qui tapait des lettres, et il marchait, il faisait les 100 pas à travers le bureau de Magnum en dictant une lettre. Il dictait des longues lettres, il écrivait très bien. Et puis je l'ai rencontré dans d'autres occasions, je l'ai rencontré donc plusieurs fois à Paris, je l'ai rencontré au bar de Magnum qui s'appelait le 125, du Faubourg Saint-Honoré. On a l'impression qu'il partait toujours pour jouer aux courses ou partir à Saint-Moritz ou partir à New York. Pour moi, qui arrivais de Lyon, timide, il faisait, par certains côtés, figure un petit peu un mélange de playboy, de coureur de filles. Et puis, au fond, on s'apercevait que cette image, presque, il la cultivait alors qu'il ne l'avait pas, qu'il était tout à fait autre chose. Il était très sentimental, dans le sens qu'il aimait les femmes, que les femmes l'aimaient, le lui rendaient bien, mais il aimait les gens, il aimait les photographes, il aimait les garçons de Magnum. Quand on avait un problème et qu'on allait le voir, je me souviens très bien qu'il l'écoutait avec générosité, qu'il n'envoyait pas du tout balader. On sentait très bien que la conclusion lui appartenait, qu'il emportait la conclusion par l'humour. Au moment des pires crises ou problèmes de Magnum, il emportait toujours à la fin par l'humour et par une espèce de marche en avant, de plutôt faire les choses plutôt que de regarder en arrière.
Et à Londres, une fois, c'est lui qui a beaucoup insisté que j'aille à Londres pour apprendre l'anglais et pour quitter Paris et faire des photos. Alors j'étais à Londres, j'habitais chez des amis, et de temps en temps, une fois par mois, tous les deux mois, Capa venait. Alors, je me souviens très bien, cet hôtel, Pastoria Hotel, il téléphonait à ses amis, il téléphonait, viens me voir à 6 heures. Quand j'arrivais, il y avait le rédacteur en chef de Picture Post, le rédacteur en chef de l'Illustrated, enfin des deux ou trois magazines importants de Londres à ce moment-là. Et Cornell n'allait pas, Capa, Robert Capa, n'allait pas les voir chez eux. Dans leur rédaction, comme maintenant nous faisons tous. Mais ce sont les rédacteurs en chef de ces journaux qui venaient le voir. Et j'ai assisté, pour moi, c'est mémorable, à des discussions, comment ils vendaient, comment ils arrivaient à un pouvoir de conviction, de charme. Et un jour, comme ça, au Pastoria, au bar, il a dit à Lionel Bush, qui était à Picture Post, en disant... Voilà, Marc, il parle anglais. Marc est un jeune photographe, garçon de Lyon. Il faut absolument que vous lui donniez un travail. Vous faites une série sur les villes, the best and the worst of British cities, le meilleur et le pire des villes anglaises. Il me dit, faites-lui donc faire la ville de Leeds. Ça ressemble à Lyon, il fera ça très bien. Ah bon, Capa, et bien le patron de... Picture Post, ah bah très bien, Capa, mais bien sûr Capa, bon, bah on va lui donner ça. Et c'est lui qui décidait. Et c'est vrai qu'il avait une façon de parler, c'était difficile de lui résister.
Alors, c'était une rencontre très très simple avec le patron, parce qu'à ce moment-là, si Capa disait tu pars, on partait, il n'y avait pas de discussion. Tu partais quelque part, n'importe où, alors tout comme était très peu, tout se jouait au 125 du Faubourg Saint-Honoré autour de la machine à pinball. Alors, si Capa t'envoyait en Turquie ou en Afghanistan, il disait bon, on va prendre un café. Alors on jouait à la machine à pinball et au troisième titre, il disait « Dis donc, alors j'ai un reportage à faire. Je crois que tu pourras le faire, alors pourquoi tu pars pas en Turquie ?» Il disait « Oui, d'accord. Si on aura un peu d'argent, on partira en Turquie. » Alors, c'était très simple à ce moment-là, parce que Capa, en relation avec tous les rédacteurs de tous les grands journaux, surtout aux États-Unis et en Angleterre, on avait toujours juste assez d'argent pour avoir un billet d'avion et après on se débrouillait. Et du temps en temps, il y avait de l'argent. Pas toujours. À ce moment-là, alors Capa téléphonait à Len Spoon de Illustrated, qui était un très grand ami, père d'une très bonne photographe, qui aimait les chevaux et qui venait à Paris pour les courses. Alors Capa et Spoon sont allés à Longchamp. Si on gagnait de l'argent, c'est Capa qui les gardait pour payer les salaires. Si on perdait, c'est Spoon qui payait. Alors c'était assez simple à ce moment-là. Mais Capa, alors pour lui, vous savez, il a toujours dit, je me rappelle une phrase très importante, il a toujours dit, je suis peut-être pas un des meilleurs photographes du monde, mais moi je sais faire tout. Et parce que je sais faire tout, on a besoin de moi. Les photos qui sont partout aussi dans l'agence, les photos du débarquement, et aussi toutes les autres choses qu'il a fait. Peu importe si c'était le tournage d'un film, si c'était un reportage général sur la mode ou sur les courses, ou si c'était Ascot ou Longchamp, ou c'était la guerre. Il savait vraiment faire tout. Et pour ça, il pouvait critiquer tout. Et on l'écoutait. Mais Capa, il critiquait tout. Les filles, les hommes, les vêtements, les cravates, les non-cravates, peu importe. Et on l'acceptait. C'était le patron. On a ici quelque part encore un dessin qui est pas loin d'ici, accroché à un mur, qui monte, c'est un dessin de New York, qui monte un groupe de gens autour d'une table, et un qui est le patron qui pointe et dit « Alors, levez-vous et vendez !» Et c'est tous les membres de Magnum de cette période, et debout, c'est naturellement Capa.
L'importance d'un groupe comme Magnum, c'est la critique des autres photographes sur son travail. Très important, parce que la photographie, on croit très, très facilement être génial, faire de belles photos, et puis il faut absolument avoir quelqu'un qui vous tire la manche en disant non, ça c'est moche, c'est pas bien, fais autre chose. Et ça, j'ai beaucoup appris dans Magnum, mais pas seulement dans la photographie, mais dans l'art de voyager, de rencontrer des gens, de toute une éthique qui est propre à notre vie et qui est très importante.
Tout mon attachement intime vers Bob était pour deux raisons. La première, c'est que lui, qui était réellement pas théoricien en quoi que ce soit, il nous parlait toujours du symbolisme humaniste. Il avait des mots à l'emporte-pièce. D'abord, il dit, si ça ne parle pas assez de tes photos, c'est parce que t'es trop loin. Il faut être dans les sujets. Et puis, il nous parlait du symbolisme humaniste. Et il voulait dire avec ça que une photo doit être le symbole d'une situation ou d'un homme. Henri a continué à le pratiquer. Chim l'a certainement fait. Werner aussi. Les autres aujourd'hui l'ont un peu perdu.
John Morris.
J'ai démissionné de Life magazine en 1946, juste après la guerre, pour être le directeur de la photo d'un autre journal, le Ladies Home Journal. C'était le plus grand journal féminin à l'époque, aux États-Unis, très puissant. J'ai donc commencé à travailler avec Capa et Magnum dès les tout débuts de l'agence, au printemps 1947. J'étais le premier et le meilleur client de Magnum dans les premières années de Magnum à New York. Bob est allé en Russie avec John Steinbeck au cours de l'été 1947. Et quand il est revenu, j'ai regardé toutes ses photos. On a payé très cher, $20,000 pour son histoire.
C'était
une très belle histoire, très émouvante. Bob et moi, nous sommes allés en Iowa ensemble, dans le Middle West, photographier une famille de fermiers. On voulait proposer une série intitulée « Les gens sont les gens partout dans le monde ». L'idée était de photographier des familles de fermiers à travers le monde entier.
And about half of those families were photographed by Magnum.
À peu près la moitié de ces familles ont été photographiées par des photographes de Magnum.
Families in France and
Jim en a fait deux en France.
Bob did the American family.
Et en Allemagne.
One in Czechoslovakia.
Bob a photographié des familles américaines et une famille en Tchécoslovaquie.
And so on.
Et il devait en faire une en Russie, mais il n'a pas pu.
This was what gave Magnum its start.
Ceci a marqué le démarrage de Magnum. En matière de projets de groupe. Ils en ont fait plus tard trois de plus, de la même manière. Une sur les femmes à travers le monde, une sur les enfants, sur les jeunes.
Ça,
c'était très important pour la pensée communautaire de Magnum.
Déjà à l'époque, Bob avait en projet une section vidéo pour Magnum.
En quelle année à peu près ?
1949-1950. Donc c'était vraiment un pionnier, non seulement dans le photojournalisme, qu'il a créé, à mon avis, mais également dans la façon dont les agences se sont développées par la suite. Si vous regardez Sigma, Gamma et tout ça, eh bien c'était ça qu'il voulait faire au départ. Et ça, il l'avait déjà en gestation dans sa tête en 1949-1950. Son grand projet, c'était de donner à ses photographes, une caméra, still camera, et une caméra de cinéma, a movie camera. Il voulait que le photographe se déplace sur le terrain avec les deux. Or, il savait très bien que c'était impossible. On ne pouvait pas utiliser et l'un et l'autre. Donc, pour lui, c'était déchirant. C'était cornélien. Il ne savait pas comment on pouvait faire. Et il ne voulait pas donner une caméra à quelqu'un d'autre que le photographe auquel il pensait, parce qu'il savait très bien que la vision serait différente. Alors, pour lui, c'était un sujet inépuisable de cogitation sans fin. Il ne savait pas comment s'en tirer. The smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws, and you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause, and Napoleon is weeping. Carnival saloon, his invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here, and it's time, 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 and it's time, time, time. It's time, time, time that you love, and it's time, time, time.
Henri Cartier-Bresson.
À la mort de Capa, on était tellement désemparés, Chim et moi, on ne savait pas du tout si Magnum pouvait continuer, ou s'il fallait fermer boutique. Et Cornell, qui travaillait. Capa n'avait jamais voulu nous influencer pour prendre son frère, qui travaillait pour Life dans un laboratoire, je crois. Il commençait à faire de la photo. Et à la mort de son frère, immédiatement, un télégramme de Cornell qui dit « Je viens travailler avec vous et vous aider. » Alors, Chim et moi, nous lui avons dit « Écoute, nous sommes pour le moment prêts à fermer la boutique, on va faire faillite, nous ne savons absolument pas ce que ça va faire. » Life a dit à Cornell, allez-y, allez à Paris, voyez-les. Si ça ne marche pas, nous vous gardons à Life. Si ça marche, eh bien, travaillez avec Magnum. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et la célébrité de Capa, Cornell a été un frère merveilleux. Enfin, c'est lui qui a organisé, et pour la photographie en général, il a donné énormément.
Michel Guérin.
Magnum a ouvert la voie. Ils ont montré que c'était viable de pouvoir faire une agence avec d'abord peu de photographes, c'est-à-dire sans faire une usine, et avec des gens connus, des gens de renom. Et en fait, c'était jamais, par exemple, un sujet, c'était pas la guerre de Corée, c'était la guerre de Corée vue par un tel. C'est-à-dire où le nom du photographe était presque aussi important que le sujet traité. Il y en avait même qui, parfois, écrivaient des textes aussi, c'était aussi cette époque-là. Et donc, ça donnait évidemment des idées à d'autres agences de faire, mais les agences, surtout en France, qui sont créées dans les années 50, n'ont pas vraiment copié ce modèle-là, puisque c'était aussi des agences un peu à l'opposé. Il y avait Magnum, d'une part, qui était un peu l'institution. Puis il y a eu d'autres agences françaises qui, elles, au contraire, retournaient à ces vieilles bases d'agences de salariés. Et là, on retrouve toute une série de photographes, notamment, par exemple, Raymond Depardon, qu'on retrouvera plus tard, qui était dans une agence qui s'appelait Dalmas. Il y en avait une autre qui s'appelait Reporters Associés. Toutes les petites agences, en fait, spécialisées uniquement sur l'Europe, souvent, Mais alors vraiment, là, on retournait au photographe Tacheron, un peu l'photographe mal payé, mais qui voyageait partout, qui avait la chance quand même de découvrir le monde et l'actualité. Et c'était une très bonne base pour apprendre le métier. Et après, alors évidemment, on s'aperçoit toujours que le même cycle se produit, c'est-à-dire que la même chose, ces photographes-là, notamment les Depardon et toute cette génération-là, n'étaient pas contents non plus de leur situation, et ont recréé un peu ce qu'a fait Magnum, avec d'autres agences ensuite. Donc c'est là, c'est les années, la fin des années 60, début des années 70, avec des agences comme Gamma, Sigma et SIPA, où là, on retournait en fait au même esprit un peu de Magnum, mais un peu moindre, c'est-à-dire avec des personnalités, des gens qui n'étaient pas salariés, qui étaient payés... aux ventes de photos dans la presse et donc au pourcentage, ce qui leur donnait une plus grande autonomie. En plus, les noms apparaissaient de plus en plus dans les journaux. Aussi, fait important, avant, on mettait uniquement le nom de l'agence à côté de la photographie dans les journaux. Et c'est surtout, d'abord avec Magnum, mais grâce au nom, mais surtout ensuite avec Gamma, à partir de 67, que l'on a vu apparaître le nom du photographe aussi gros que le nom de l'agence dans les journaux. Ça, c'était un fait important.
Jimmy Fox, qui dirige aujourd'hui le bureau de Magnum à Paris.
Je suis le rédacteur en chef de l'agence. Je m'occupe de tout ce qui est les reportages, de le choix des documents, à l'intérieur du choix des reportages, de faire les textes, de faire les sujets, de les construire avec eux et de les diffuser dans le monde entier. C'est le côté un peu comme le film éditeur d'un film... ils reviennent avec un tas de photos et ensemble nous discutons quels sont les meilleurs documents, comment ça se construit en sujet et comment on va les diffuser, donc on va mettre le reportage en vente dans les magazines du monde entier. Ça a besoin d'un rapport c'est très étrange cette collaboration entre un photographe et son picture editor. Il n'y a pas un mot en français pour picture editor parce que vous êtes un peu scénariste des images et que vous venez pas aller avec lui sur le reportage, alors vous ne connaissez pas du tout le sujet par cœur comme lui, et lui il revient des fois très motivé sur des choses émotionnelles qu'il a vécues mais qui se montrent pas en photo. Alors c'est à vous d'être le spectateur, vous êtes le représentant des lecteurs pour lui dire mais il faut qu'on reconstruit. C'est un peu comme du rewriting dans un livre. On vous donne un brouillon et vous le condensez pour...
Quels sont ceux qui ont joué ce même rôle à l'agence Magnum avant vous ?
Ben, il y a toujours eu des personnes avant qui étaient dans les magazines. C'est-à-dire à l'intérieur de notre profession, le métier se faisait avant, comme vous pensez au terme photojournaliste, était qu'un reporter devait revenir avec son texte et ses photos. Il devait livrer ce sujet complet... de son expérience à la presse ou à un client. À fur et à mesure que ça s'est développé, il y a eu le magazine ou des magazines qui ont envoyé un journaliste écrit et le photographe est parti faire son sujet visuel. Et c'était le mariage des deux à la fin pour le magazine qui faisait le reportage. Par exemple, Life Magazine ou Look ou à l'époque ou les grands magazines, les personnes collaboraient. On ne demandait pas au photographe d'écrire son texte. Bah, et c'est comme on ne demande pas à un journaliste de texte écrit de faire des photos. Alors, il y a eu pendant plusieurs années un écart entre ce que faisait le photographe et ce que la presse avait besoin comme document final. Alors, dans la structure des magazines, il y a toujours un directeur artistique qui normalement devrait discuter avec le photographe du reportage avant qu'il part et du sujet quand c'est revenu. Mais comme les magazines sont de plus en plus répandus depuis les 30-40 dernières années, nous n'arrivons plus à ce stade de dialogue. Parce que quand vous travaillez pour un magazine comme Géo, ou pour Stern, ou pour Life, ou même pour Paris Match, il faut qu'il y ait un dialogue. Parce que vous êtes parti par exemple en Hongrie, vous n'êtes pas un fournisseur de documents. Vous êtes un reporter qui a une certaine vision qui s'est passée et vous vouliez que votre reportage soit publié dans ce sens-là. Et je crois que le débat de Robert Capa et des autres qui ont fondé Magnum était justement sur les droits de leur impression, du mise en page et les droits sur leurs photos, que ça ne devenait pas la propriété de quelqu'un d'autre. Et ce dialogue doit continuer pour que le photographe ne soit pas un simple fournisseur.
Donc ce rôle a été tenu depuis toujours par
quelqu'un. Oui, depuis toujours, il y a eu, par exemple, John Morris que vous avez rencontré. John Morris, qui lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était le picture editor de Life Magazine à Londres. Alors ça veut dire que lui, il recevait le film de tous les photographes qui étaient dans le champ de guerre et il dialoguait avec eux. Il voyait les documents, il demandait des explications et il retransmettait cette information au journal qui se trouvait à New York. Et parce que des fois, le photographe ne peut pas revenir. Moi, j'ai eu le cas avec la Chine récemment, où le photographe était à Pékin, sur la place Tiananmen. Moi, j'étais souvent au téléphone pour qu'il me décrit ce qu'il a fait, ou je regarde à la télévision ce qui se passe, parce que je reçois les films, je reçois pas toujours des textes, des légendes ou des dates, et il faut que j'ai une synthèse de ce qui s'est passé pour pouvoir visuellement savoir si le photographe me dit « j'ai fait une très très bonne photo, faites attention, c'est ce document-là, dans la multitude de documents que nous avons à consommer ». Alors le picture editor joue un rôle important parce qu'il doit savoir à peu près quel est le style, le goût du photographe et être très rapide dans le choix des documents. Cette personne intermédiaire est un peu le réalisateur du reportage du photographe, avec le photographe.
Alors, est-ce que vous pensez que l'agence Magnum, aujourd'hui, continue à travailler dans le même sens que les tout premiers photographes du départ ?
Non. Bon. Vous ne pouvez pas penser à ça. Vous ne pouvez pas penser que vous avez maintenant des avions à réaction, vous avez des telex, des fax, vous avez des systèmes de communication ultra rapides. Le photographe qui, à l'époque, lui, partait en reportage, ça lui prenait peut-être 4 jours pour arriver quelque part. Maintenant, ça vous peut vous prendre 8 heures d'avion. Il ne faut pas 4 jours. Alors, comme le déplacement est allé de plus en plus vite, les demandes des journaux et les bouclages des journaux vont de plus en plus vite, vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des systèmes maintenant de transmettre des photos par images digitalisées presque au moment où les photos ont été prises. Alors, en comparaison avec il y a 40 ans, n'avait pas cette concurrence de télévision. Moi, je vois à la télévision, par satellite, ce qui se passe en Afrique du Sud, et j'ai même pas encore parlé à mon photographe qui est en Afrique du Sud pour savoir comment il m'envoie mes films. Alors, nous sommes un écran en arrière en comparaison. La technologie nous a dépassés. Alors, le danger, c'est qu'elle nous dépasse par les moyens de transmission, par les moyens électroniques, mais il faut pas qu'elle dépasse par sa rapidité la sincérité et le contenu du sujet.
Et comment vous positionnez-vous sur la place de Paris parmi toutes les agences ?
Je dirais à l'écart.
À l'écart.
À l'écart, parce que je n'aime pas du tout cette attitude que, bon, vous êtes 5 ou 6 agences de presse photographiques. Ça veut dire que vous êtes comme Boucherie Bernard. Vous faites tous de la viande, mais vous ne faites aucune distinction entre la qualité de la viande que vous vendez. Alors, il est vrai qu'il y a des agences de presse qui où le photographe n'est pas nécessairement important. Le nom de l'agence apparaît, mais pas toujours le nom du photographe. Et que le document qu'on diffuse, la diffusion est plus importante que peut-être le contenu ou le goût esthétique de la photo. Comme nous sommes un coopératif, nous essayons de prendre du recul et faire des choses en profondeur où d'autres agences ne le feraient pas. J'ai le problème en ce moment avec la Hongrie. Je sais qu'il y a 1000 photographes qui se trouvent en Bavière. Moi, je n'ai aucun, mais j'essaye de faire un autre sujet au lieu d'être le 992e photographe sous le temps en Bavière. Ça ne me sert à rien du tout d'être parmi la meute. Je préfère que le photographe... Parce que si vous êtes parmi la meute, tout le monde a des moteurs, tout le monde a des appareils, tout le monde va revenir avec le même document. Alors, c'est celui qui est le plus rapide de transmettre. Et ce n'est pas sa vision, ce n'est pas son enquête visuelle qui est importante.
Alors là, Mac Ribou, vous tenez entre les mains un livre écrit par Robert Capa, L'action des mains au cours de l'été 1942, et ce livre s'appelle Slightly Out of Focus.
Qui veut dire, vous savez, légèrement hors du champ, légèrement pas tout à fait au point. Et il veut de toute évidence dire que toutes les histoires qu'il raconte là sont légèrement brodées. C'est pas tout à fait net. Et ce livre, ce texte, est extraordinaire à lire. Il n'est absolument pas littéraire ou intellectuel, mais une qualité d'écriture, une qualité qui comme si vous voulez, les grandes émotions et les gens qui ont vécu des choses fortes et des choses drôles et des choses cocasses, l'écrivent de façon la plus naturelle et la plus, on va dire, divertissante, le plus drôle. On s'ennuie jamais. C'est toujours des rebondissements, des inouïs, cocasses. J'en connais la première phrase. Il n'y avait aucune raison de se lever le matin. Il n'y avait plus aucune raison de se lever le matin parce que tous les matins, il se levait, il n'y avait plus que deux lettres sous le pas de la porte, l'une du propriétaire lui demandant le loyer, et la deuxième de compagnie du gaz et l'électricité lui demandant de payer le gaz et l'électricité. Et ce matin-là, il y avait une troisième lettre. Alors il s'est dit, je vais tout de même me lever, puisque cette troisième lettre. Et en effet, cette troisième lettre était une lettre d'un journal qui s'appelait Colliers, qui lui demandait et lui envoyait, un chèque de 5 000 $ pour lui demander de partir rapidement en Angleterre pour couvrir la guerre. Et toute l'histoire suit et il va d'abord, avec ses 5 000 $, se payer un petit déjeuner de 9 $ à cette époque, comme si ce serait 300 francs, et il se paye un petit déjeuner plantureux, et avec le reste, les 4 983 $, il est allé à la banque, il est allé pour essayer d'avoir son passeport, et puis on lui a dit, comme il était hongrois de naissance, qu'il était absolument impensable qu'il quitte les États-Unis, et qu'il fallait tout de suite qu'il rende ce chèque qu'il lui avait donné. Et il raconte comment, puisqu'il en avait déjà dépensé 17 $, il ne pouvait pas rendre les 5 000 moins 17 $, et qu'il allait tout faire, et l'histoire continue, tout le livre, comment il est allé finalement en Angleterre, comment il a couvert la guerre, comment il a été parachuté, comment il a rencontré les plus belles filles, en particulier une très belle fille, et qui n'arrivait jamais à vraiment la rencontrer, car il repartait toujours plus loin, il repartait toujours pour un parachutage. Et c'est un style, comme il a vécu, comme il a photographié, taillé comme ça, jeté à brûle-pourpoint, franchement, plein d'humour, plein de descriptions visuelles des personnes rencontrées, avec un petit peu de sel pour faire monter, pour jamais de longues dissertations, jamais de longues explications.
Imaginez que Bob, qui à quelques semaines près a le même âge que moi, je ne peux pas m'imaginer qu'il a mon âge. Il est resté pour nous tel que Villeronis a si bien photographié et qui est ma photo préférée de Bob Capa, avec son regard malicieux, moqueur, qui se moquait de lui-même. Pour commencer, il s'amusait toujours royalement à ses propres dépenses.
Nous avions fini de regarder chacune des photographies contenues dans les boîtes. Très vite, la documentaliste les a rangées. Et puis, dans les profondeurs de l'agence, elle s'est évaporée, les boîtes en carton sous le bras. Profil perdu, Robert Capa. Une émission de Dorothée Noblet. Avec Cornel Capa, Henri Cartier-Bresson, Pierre Gassman, Marie-Pierre Giffet, Éric Lessing, Suzy Marquis, John Maurice, Marc Ribou, Jean-François Vallée. Groupe de réalisation, Daniel Fontanarosa, Christian Fontaine, Corinne Brasnotzi.
C'était le second des profils perdus consacré à Robert Capa. Première diffusion sur France Culture le 26 octobre 1989.